stattdessen zwischen
Il y a 40 ans, les slogans fleurissaient sur les murs du Quartier Latin. Et dans quelques semaines, mai 68 sera devenu Quadra. On a entamé ce cycle de rencontres-débats autour du festival Son de Plateau avec le son d'amour à propos de poésie sonore. Et on le clôt avec le son de guerre. Aujourd'hui, en faisant se croiser les récits et expressions de musiciens, poètes, journalistes, reporters et témoins de l'actualité. Une actualité où le souffle des bombes le dispute au souffle des voix. De ces convulsions guerrières, par chance, ici, nous n'en connaissons que le son lointain, l'écho des médias, une dimension sonore souvent occultée par l'image omniprésente, instantanée, cette image qui n'attend de vous qu'un clin d'œil avant de tourner la page. Le son dure, la guerre aussi, hélas. En temps de guerre, ce son, il requiert un temps d'écoute, une attention soutenue, un petit peu plus qu'un point de vue sur les malheurs du monde. Le son, il vous capte, il vous happe, il vous expose à la trajectoire des roquets et des roquettes, à la balistique des discours et aux dommages collatéraux des commentaires. Je vous propose qu'ensemble, nous prenions le temps de cette écoute du son de la guerre, en compagnie de Zad Moultaka, compositeur, Mazen Kerbaj, illustrateur et musicien, Etel Adnan, poétesse et peintre, Manuel Garcin, grand reporter à la radio suisse romande, Jean-Marc Stricker, reporter lui aussi et musicien, et enfin Thierry Fabre, essayiste, rédacteur en chef de la revue La Pensée de Midi. Et c'est vers le Liban que nous allons tendre l'oreille, ou du moins écouter le témoignage de ceux qui ont entendu le fracas des armes. Le Liban, qui a connu, je le rappelle, de 1975 à 1990, plusieurs guerres civiles et régionales, et qui est encore aujourd'hui au bord du chaos. Peut-être pour commencer, Mazen Kerbaj, tu vis à Beyrouth, tu y étais encore il y a quelques heures, presque, quelques jours. Peut-être quelques mots sur cette situation du Liban aujourd'hui et sur ce qu'on y entend comme son. Quel est le son de la rue? Qu'est-ce qu'on entend comme son aujourd'hui dans les radios, dans les télévisions?
Je pense que je vais vite parler un peu du son d'aujourd'hui, mais je pense qu'il n'est pas très intéressant, surtout ce qu'on entend à la radio et politiquement. Quoi, au Liban, c'est vraiment c'est presque un gag. Quoi. Hélas, on y vit et on doit y vivre tous les jours. Je reviens, j'arrive il y a deux jours, tout est calme, on entend le son de Beyrouth, le vrai son de Beyrouth, vraiment plutôt une cacophonie, quoi. C'est assez bruyant comme ville. Ceci dit, je vais très vite passer au son de guerre, justement, puisque maintenant on n'est pas en guerre, pas encore. En fait, il faudrait préciser qu'à Beyrouth, on est habitué à vivre dans un entre-deux-guerres tout le temps, ou dans la guerre, quoi. C'est chaque fois qu'une guerre finit, on est presque... on n'est jamais en temps de paix, en gros, quoi. On attend toujours ce qui va venir après. Donc, pour moi, musicien, je vais parler de cette expérience, surtout. Je joue de la musique improvisée libre, donc à la trompette, et j'ai souvent eu des commentaires comme quoi mes sons ressemblaient à des bruits de guerre, donc à des bruits d'hélicoptères, de tanks, d'obus et tout ça. J'y ai réfléchi beaucoup par la suite et j'ai souvent eu l'idée de récolter des sons de la guerre civile, donc dans laquelle j'ai grandi, et de jouer avec de la trompette. Comment je me reconnais dans ces sons, qu'est-ce que ces sons veulent dire pour moi, c'est un truc très difficile à expliquer. C'est une sorte j'ai une sorte de nostalgie énorme pour ces sons. Ce qui est très dur à accepter pour moi-même déjà, d'avoir cette nostalgie, que ce soit les sons ou même la ville de Beyrouth telle qu'elle était. Quand je vois des images des années 80, c'est le Beyrouth que je connais, quoi. Aujourd'hui, c'est pas le Beyrouth que je connais. Bien sûr, c'est un peu gros de dire ça comme ça, mais il faut penser un peu à dans des villes normales ou dans des vies normales, un peu à la Madeleine de Proust, par exemple, ou à une odeur qu'on connaît depuis qu'on est gosse et qu'on reconnaît tout de suite dès qu'on la ressent, ou un lieu où on a été, etc. Donc, pour moi, j'ai eu la chance presque de grandir pendant la guerre et non d'être adulte quand elle a commencé. Donc pour moi, c'était vraiment un truc très naturel. Donc, j'ai grandi avec, j'ai dû m'adapter. Souvent, quand je demande à mes parents « comment vous nous avez expliqué ça ?», ils me disent « tu es né, elle existait déjà, on n'a pas eu à t'expliquer. » Et à ce moment, la relation à ce son de guerre est vraiment très, très différente, dans le sens où c'est vraiment une relation où l'affectif est vraiment très présent. C'est quand j'écoute les bruits de mitraillettes et de bombes des années 70, des années 80 plutôt, je reconnais tout de suite ce son, l'écho du son qui se répercute dans la ville, etc. Alors, j'ai toujours été très curieux de savoir si j'étais adulte, comment j'aurais réagi envers ces sons, etc. Heureusement, Israël nous a offert une belle guerre il y a deux ans, et donc on a pu revivre tous ces sons qu'on connaît. Et hélas, ça a confirmé ma nostalgie pour ces sons. Donc on avait vraiment très peur. Bien sûr, quand on entend une bombe, c'est vraiment autre chose que la télévision, quoi. Quand on l'entend, quand l'immeuble bouge, quand il y a ce souffle, quoi, qu'on ressent, il y a quand même une certaine nostalgie. Donc c'était vraiment en même temps un truc très, très effrayant, et en même temps ça me replongeait dans des souvenirs d'enfant. Et dans presque tout, pas le son spécialement, quoi. Je veux dire, tous les Libanais savent ça. Au deuxième jour de la guerre avec Israël, on avait retrouvé des réflexes. C'est un peu la fameuse bicyclette, quoi. On a beau arrêter pendant 20 ans, on reprend une bicyclette, il nous faut 2 minutes, on est dessus. Donc c'est très dur d'expliquer un peu ce truc pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, dans le sens où c'est un truc vraiment naturel. C'est un peu, je dirais presque, c'est une différence culturelle, quoi. C'est vraiment essayer d'expliquer sa culture à quelqu'un d'autre et tout ce que ça comporte comme préjugé ou comme idée reçue déjà sur ces trucs. Et puis la guerre, on en voit tellement, que ce soit sur les médias ou dans les films, etc., etc., que quand on la vit vraiment et quand on sait c'est quoi, on peut plus en parler sans se référer à cette fausse guerre. Même les médias qui montrent la vraie guerre, je veux dire, même les Américains qui filment la guerre en Irak, c'est pas la guerre, quoi. Quand on regarde cette guerre en Irak dans un salon à Londres, par exemple, on n'est pas là-bas. Ceci dit, je lance pas des attaques contre les Européens qui sont dans leur salon, parce que quand il y a un massacre au Rwanda, je suis dans mon salon à Beyrouth et je le regarde. Et je ne peux pas me projeter là-bas, même si je veux me projeter là-bas. Donc tout ça nous ramène à cette idée du son sur laquelle j'étais. Peut-être parce que je suis musicien, j'ai toujours été intéressé par savoir combien j'ai été influencé par ces sons. Ceci dit aussi, j'ouvre juste une parenthèse pour dire, dans la pratique musicale improvisée, dans la musique expérimentale, improvisée ou contemporaine, je fais beaucoup de sons, donc d'hélicoptères et de trucs, mais je connais une quinzaine de plus, une centaine de musiciens européens et américains qui n'ont jamais vu la guerre, qui utilisent les mêmes sons. Donc je pense pas que c'est parce que j'ai vécu la guerre que je joue cette musique, mais j'ai été plus influencé d'ailleurs par des musiciens européens, quoi, pour jouer ça. Mais il y a ce truc, cette relation à ce son, la relation au silence par exemple, qui est très différente que dans la musique européenne. Le silence étant quelque chose qui préfigure quelque chose d'abominable qui va arriver. C'est jamais un silence naïf et honnête et sympathique. Non, il est toujours avant quelque chose. Donc bref, toute ma musique se structure sur ça. Et pour revenir au projet donc, de jouer avec les sons de guerre, quand il y a eu donc cette deuxième guerre, deuxième, je crois que c'est la sixième, la septième, mais pour moi, cette deuxième grosse guerre, donc je me suis dit au début, je vais aller enregistrer les sons de bombes, justement je vais les avoir maintenant et pouvoir rejouer avec eux. Et puis ils bombardaient Beyrouth, je sors sur mon balcon pour mettre mon micro à mini disque, et puis je me dis, c'est con, je vais pas les enregistrer et rejouer avec. Comme je suis improvisateur, je me suis dit, je vais faire tout ça en live. Donc je me suis retrouvé à enregistrer 9 heures sur mon balcon pendant donc les bombardements de Beyrouth en 2006. Ceci dit, je rassure tout le monde, c'est pas vraiment, pas tellement dangereux, quoi. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans, parce que justement, quand on est Libanais, on sait que quand ils bombardent cette région-là, ça a beau être à 2 kilomètres de chez soi, ça va pas nous toucher, quoi. Surtout avec les Israéliens qui sont très précis, paraît-il. Même dans les gaffes, quoi, les petites fautes comme ça techniques.
Aujourd'hui, le Liban n'est plus en guerre, même s'il n'est pas non plus complètement en paix. Pourtant,
de très nombreux accrochages continuent à avoir lieu, attentats, fusillades parfois dans la rue. Quand tu entends le bruit provoqué par une de ces fusillades ou un de ces attentats, est-ce que tu as une réaction immédiate? Est-ce que l'imprégnation que tu as subie de ces sons de guerre fait qu'aujourd'hui, tu as presque une réaction instinctive lorsqu'arrive un bruit de canon ou de bombe?
C'est sûr, mais c'est sûr qu'on a ce truc tous au Liban, mais... Bon, pour résumer ce qui se passe maintenant, il y a un journaliste qui a eu une expression géniale, je pense, pour définir. C'est une guerre civile froide, maintenant, ce qui se passe au Liban. Donc, on est vraiment en pleine guerre civile, à mon avis. C'est parce que des gens disent encore, elle va pas arriver, mais on y est, quoi. Par contre, les bruits de guerre, c'est, donc, le son de la bombe surtout. C'est assez curieux, c'est en y repensant, justement, pendant la guerre israélienne. C'est assez curieux car la réaction qu'on a envers ce son, quand on l'a connu tellement longtemps, c'est une réaction de survie, je dirais, quelque part. Donc, quand on entend une bombe, je veux dire, si je prends un type qui a grandi, mettons en France, qui n'a jamais entendu un bruit de bombe, et je le mets à Beyrouth et c'est bombardé, il va automatiquement avoir une réaction de se cacher ou d'essayer de se protéger. Par contre, pour le Libanais qui a donc vécu ça pendant très longtemps, c'est très précisément... le son de la bombe qui te dit que tu n'as rien à craindre, parce qu'une bombe, quand elle a explosé, quand tu peux l'entendre, ça veut dire que tu es vivant, c'est déjà passé, quoi, quand tu peux l'entendre. Et donc, bon, il y a tout de suite on sursaute, quoi, mais tout de suite, on se recalme, on continue la discussion très normalement. Et c'est pas une sorte de truc qu'on a... C'est vraiment un truc... presque instinctif, naturel, qui s'est développé avec le temps. Je veux dire, quand tu reçois une bombe, c'est ok, ça fait très peur, mais quand il y a une centaine de bombes qui descendent par jour, il faut vivre avec, il faut aller à l'école quand il n'y a pas des bombes ou au travail, et puis quand ça rebombe, tu descends aux abris, mais c'est tout un procédé vraiment naturel, et c'est ce qui est le plus triste, en fait. C'est de réaliser que c'est vraiment un truc, cette nostalgie et ce naturel avec lequel on accepte cette histoire, qui est le plus dur à avaler, en fait.
Lorsque tu improvisais sous les bombes avec ta trompette, dans quel registre de son jouais-tu en complément de ces bombes? Est-ce que tu étais dans les mêmes tonalités? Est-ce que au contraire ton jeu était totalement autre, en contraste presque violent, je dirais, contre ce son-là?
Je dirais que c'était j'ai appelé la petite pièce que j'ai sortie, donc de ces 9 heures, c'est une petite pièce de 6 minutes qui s'appelle Starry Night, que je vais jouer un peu plus tard ce soir, que je vais diffuser, quoi. Elle est déjà enregistrée. J'avais appelé ça une improvisation minimaliste, c'est mon côté un peu humoristique, de mauvais goût. Mais sinon, c'est plutôt comme je joue d'habitude, donc j'essaie parfois quand j'entends les avions arriver avant qu'ils bombardent, j'essaie de faire des bruits de mitraillettes pour essayer de les descendre un peu, mais c'est anecdotique, mais tout le reste est vraiment, c'est des petits sons, et qui sont effectivement en contraste énorme avec la... Même quand je faisais des gros sons, quoi, quand la bombe arrive, je me demandais quelle sorte d'embouchure ils utilisent, quoi, les pilotes, parce que c'était vraiment un son énorme, et tu peux pas faire une compétition avec ça. Donc il faut toujours mieux rester en retrait.
Si tu veux bien, Mazen, on va se retrouver dans quelques minutes, peut-être pour évoquer avec Zad Moultaka, un ami commun qui s'appelait Samir Kassir et auquel tu as dédié un ouvrage, un livre de dessin, et auquel Zad Moultaka a dédié une composition musicale. Mais peut-être maintenant, j'aimerais... avec Manuel Garcin, grand reporter de guerre auprès de Radio Suisse Romande, lui demander comment est-ce qu'on ressent ce bruit de la guerre quand on arrive sur un théâtre des opérations. Là, Mazen Kerbaj vient de nous expliquer comment on le ressentait quand on y vit au quotidien, tout le temps, quand on s'en imprègne. Mais toi, quand tu es arrivé pour la première fois sur un théâtre des opérations, quels sons t'as frappé?
Je crois qu'il faut faire la différence entre le son qu'on peut attendre si l'on est à Beyrouth et que les avions israéliens arrivent. On sait qu'il y aura des bruits de bombes, on sait qu'il y aura les hélicoptères qui passeront, on sait qu'il y aura les chasseurs israéliens qui passeront. Il y a d'autres situations où on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des bruits, des sons de guerre, et ceux-là sont peut-être les plus étonnants. Je vous cite juste un petit exemple. Je me trouve en Afghanistan il y a 12 ans, au moment où les talibans venait de prendre le pouvoir. Et je me suis trouvé au pied de la montagne du Panjshir, qui était le refuge de Massoud, au moment où les talibans ont attaqué Massoud. Hein. C'était le premier jour. La guerre reprenait en 96. Et là, en montant sur une route qui mène vers l'Asie centrale, dans une voiture avec un médecin afghan, un ami, on s'est engagé sur un pont d'une rivière à sec. Et juste sur notre droite, il y avait une batterie de missiles talibans. Et à ce moment, ils ont tiré. Et une fusée a passé, mais à 10 mètres, même pas, devant nous. Alors, c'était tout à fait inattendu. Et ça, ça frappe beaucoup. On s'est évidemment reculé, comme on est dans un paysage montagneux, on s'est mis à l'abri. Et là, moi, j'ai sorti mon enregistreur et j'ai commencé à raconter ce qui se passait, disant que les talibans tiraient. On ne savait pas si c'était contre les positions de Massoud ou un autre chef de guerre qui s'appelait Rachid Dostam, et dont l'issue, si Dostam était entraîné dans cette guerre, ça pouvait avoir des conséquences assez graves. Et au moment de raconter ça, les talibans ont retiré une fusée, ces vieilles fusées soviétiques. C'est peut-être pas très dangereux, mais comme elles sont très, contrairement aux armes israéliennes, elles sont très imprécises, elles partent un peu comme ça. Et là, dans le récit que je faisais, j'ai fait... Et j'ai rediffusé le soir même, grâce, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, c'était il y a 12 ans, enfin, il y a des gros trucs, mais grâce à Médecins du Monde, j'ai pu diffuser vers la Suisse cet enregistrement. Et bien cette stupeur du son de guerre, c'est ça qui a frappé les gens. Et j'en ai beaucoup entendu parler.
C'est-à-dire, ce qu'on a entendu, ce n'est pas tant la bombe que l'effet qu'elle produisait sur toi.
Voilà, c'est la surprise, c'est l'inattendu. Stupéfaction. Voilà, exactement. Oui.
Alors, c'est peut-être un peu anecdotique de te demander ça, mais à propos de son, il est quand même essentiel de parler aussi un peu de la prise de son. J'aimerais savoir comment vous, grand reporter, et je m'adresse aussi bien à toi, Manuel, qu'à Jean-Marc Stricker, quel type de prise de son vous faites, quel type de matériel vous utilisez, est-ce que vous cherchez à être le plus discret possible, avec quelque chose d'un peu dissimulé, comment opérez-vous les prises de son?
Tout dépend des circonstances. On peut rappeler que maintenant, par exemple, le journaliste qui couvre des terrains d'opération est devenu, c'est un métier qui est devenu dangereux. On enlève des journalistes contre rançon pour faire, etc. Et surtout au Proche-Orient, ça s'est beaucoup passé. Moi, j'ai vécu la fin de la guerre du Vietnam, par exemple, où on allait sur le terrain, les généraux venaient nous serrer la main, venaient nous dire « vous avez besoin d'un hélicoptère ». Ça n'est vraiment là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, quand il faut opérer très discrètement, comme je me suis trouvé en Irak sous Saddam Hussein, là, on fait très attention. La prise de son, c'est discret. Mais... dans un cas comme, par exemple, j'ai couvert la première guerre du Golfe en 91, et là, du côté israélien, je l'ai couvert, enfin, j'étais à Tel Aviv, et tous les jours, toutes les nuits, en fait, les Scud tirés par l'armée de Saddam Hussein arrivaient sur Tel Aviv, il n'y a pas une nuit sans alerte, et là, on était obligés de descendre dans des abris, de mettre des masques à gaz, parce qu'on craignait beaucoup que ces vieilles pétoires de Scud contiennent des substances chimiques, gaz sarin, gaz moutarde. On savait que dans un cas, on avait pour 30 secondes à vivre avant que notre système nerveux soit atteint, ou suivant la nature du gaz, le système respiratoire soit atteint. On était obligé de faire très attention. Et là, alors il se trouve que j'étais un des... dernier soir, et la guerre durait depuis 10 jours, et avant de partir, j'étais allé voir un vieil ami qui était le correspondant du journal Libération, Shalom Cohen, et là, chez lui, à peine j'étais arrivé chez lui, très tôt le soir, contrairement aux autres soirs où c'était la nuit, mais là, à 18h, j'arrive chez lui, et il y a eu une alerte, on a tous dû mettre nos masques à gaz, et là, j'étais avec un technicien, je lui ai demandé d'enregistrer. Voilà, si tu peux passer.
On l'écoute.
6h05, l'alerte retentit tôt ce soir. Nous sommes dans une pièce isolée chez notre correspondant Shalom Cohen. Et là, on vient d'entendre les explosions, c'est probablement des patriotes tirés, ou alors un scud qui tombe, ça nous ne le savons pas encore. Je pense que là vous venez d'entendre une nouvelle explosion. C'est difficile de parler à travers le masque. Je pense que la radio très rapidement va nous renseigner sur ce qui se passe.
Alors j'aimerais juste dire, justement, quand on vit un moment de guerre parfois, qui est, même là si c'était attendu, on savait que chaque nuit il y avait des choses, mais on ne sait pas. Et comme tu viens de dire, quand on entend la bombe, c'est qu'elle est à côté. Mais on ne sait pas si la suivante va être pour nous. Et c'est là que les choses changent parfois. Alors, j'aimerais juste dire donc, que quand on est journaliste, que quand on est en direct, parfois on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et ça compte, il y a un mythe un peu. On dit, ah, les gens, ils sont sur le terrain, ils savent. Mais là, on avait des masques à gaz, on suivait ce qui se passait, mais on ne savait pas la nature. On ne savait pas si c'est, effectivement c'était un scud, s'il était tombé, s'il avait explosé en l'air. Nous, on entend une explosion. Elle n'est pas à 3 mètres à côté, là, on ne serait plus là pour le dire. Elle est à peut-être à 500 mètres ou 300 mètres. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe et il faut un temps pour rétablir la vérité. Là, juste pour conclure, j'aimerais dire que, comme réponse à cette situation tout de même assez agressive d'entendre le scud au-dessus, de ne pas savoir s'il y en aura un autre dans les 5 minutes qui viennent. Dès que l'alerte a été levée, qu'est-ce que nous avons fait avec Shalom Cohen? Nous ne sommes pas musiciens, ni lui ni moi, donc on n'a pas pris d'instrument de musique pour jouer, on a fait de la confiture aux oranges.
Jean-Marc Stricker, tu es toi aussi grand reporter pour Radio France, je crois France Inter.
Je l'ai été, en tout cas.
Plus précisément, peut-être est-ce que tu agrées, est-ce que tu abondes à ce que disait à l'instant Manuel Garcin, le son nous prend par surprise?
Non, j'ai une position un peu différente pour ce qui concerne les rapports entre le son et le son et la guerre, le son et l'information. J'ai toujours considéré que la photo sonore n'était pas plus honnête que la photo tout court. Et donc, il fallait absolument se méfier, car informer n'est pas émouvoir. C'est deux modes complètement différents. L'information n'est pas un art. Je suis tout à fait en rupture avec l'idée qu'on puisse s'inspirer de sons réels pour faire de la musique, parce que je considère que la musique est une évasion du réel, et notamment du réel dans ce qu'il a de pire, par exemple la guerre et la mort. Donc je suis tout à fait dans une autre position pour ce qui concerne les rapports, le rapport entre le son, la musique, la guerre, l'information, etc.
Un élément essentiel de votre travail de journaliste, de reporter, c'est aussi de poser un commentaire sur l'actualité que vous donnez à entendre. Peut-être quelle difficulté particulière ou quel exercice particulier cela vous impose que de légender ainsi un son, de poser un commentaire sur le son de la guerre?
Comme tu le sais peut-être, je suis devenu, après avoir été spécialiste de Proche-Orient, je suis devenu, je sais pas, sur service culturel, et notamment spécialiste du théâtre. Et très souvent, on me disait, lors de stages que je dirigeais pour des jeunes journalistes, mais comment on devient critique de théâtre? Et je disais, on reste journaliste, c'est-à-dire que quand on couvre un événement tel qu'une guerre, on doit avoir exactement la même attitude quand on assiste à une pièce de Shakespeare. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'entière responsabilité de ce qu'on va dire, sans céder de son ou d'extrait de la pièce ou d'extrait du spectacle guerrier. Il faut assumer totalement ce qu'on a à dire, et c'est une forme, comment dirais-je, de vulgarisation au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire passer une information complexe, difficile, pleine de fonds cachés, de sous-entendus, etc., qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un chef-d'œuvre de Shakespeare. Hein, je veux dire, la complexité est la même. Donc, il s'agit de faire un travail de décodage de l'événement, qu'il soit théâtral ou réel. Il s'agit de le décoder et de donner les clés à ceux qui n'ont pas vécu et ou qui n'ont pas vu pour ce qui concerne une pièce de théâtre. Mais c'est très proche. Je veux dire, je ne fais pas de différence fondamentale entre la couverture d'une actualité culturelle et la couverture d'une actualité réelle.
Manuel Garcin, tu ressens ça aussi, cette idée que le théâtre des opérations, c'est un théâtre ?
C'est un théâtre, de toute façon. Mais la connaissance que l'on peut avoir de ce théâtre, lorsqu'on couvre de l'actualité pour des journaux radiodiffusés, ou peut-être en TV, c'est la même chose, mais il y a une différence, personnellement, à laquelle je suis assez sensible, c'est lorsqu'un envoyé spécial dans un pays connaît bien la situation ou ne la connaît pas. J'ai vu qu'on envoyait souvent de plus en plus des jeunes journalistes un peu casse-cou, ou ces journalistes demandent eux-mêmes à partir, ou des freelance partent et vendent leurs services. Et quand ils ne connaissent pas très bien le pays, ça donne souvent dans les reportages surtout de l'émotion. Mais à une mauvaise connaissance de la situation politique. Bien sûr qu'on peut aller dans le sud du Liban et dire voilà, il y a des bombes israéliennes qui tombent, il y a des routes qui explosent, etc. Mais si on connaît un peu la subtilité de la situation libanaise entre les groupes, les religions, etc., le résultat en est différent. Et je pense que là, on peut être plus garder le sens critique et avoir une certaine distance par rapport à ce qui se passe. Voilà.
Le son de la guerre, le son et la mémoire qu'on en garde, la mémoire du son, une mémoire parfois transfigurée, par exemple par la création artistique, par exemple par la musique, Zad Multaka, avec ce souvenir des bombes que tu rencontrais quand tu étais enfant. Tu as composé une pièce qui s'intitule Le Nom, une pièce qui est marquée en plus par le souvenir, la mémoire de quelqu'un que j'évoquais tout à l'heure, Samir Kassir. Peut-être juste quelques mots sur cette personne et comment est-ce que ta musique a réutilisé ce son tout à fait réel des bombes de la guerre pour la transfigurer.
Ça fait plusieurs années, depuis l'âge de 7-8 ans, en fait au début de la guerre dans les années 75, je me rappelle toujours d'une histoire où il y a un voisin qui était venu un soir et qui a dit à mes parents, je vais vous faire entendre quelque chose. Donc moi je croyais que c'était de la musique, qu'il avait une cassette, c'était des cassettes à l'époque, et il met la cassette et on entend donc des bombardements, et là j'apprends qu'en fait c'était la nuit de bombardement qu'on avait vécu donc la veille. Donc tout à coup il y avait une forme de distanciation, comme quand on va au théâtre, comme pour regarder quelque chose qui fait partie de la vie, mais en même temps qui est trafiqué. Enfin, en le trafiquant, on s'approche encore plus de la réalité. Enfin, il y avait une espèce de décalage très très curieux. Cette histoire m'a beaucoup beaucoup marqué. Et pendant plusieurs années, c'était quelque chose qui était omniprésent dans ma tête. Et le jour où il y a eu cet horrible assassinat de Samir Kassir, il y avait une révolte.
En deux mots, Samir Kassir était journaliste, je crois.
C'était un journaliste qui travaillait au journal Al-Nahar et qui avait plusieurs écrits et qui se battait pour la liberté, qui se battait pour la justice, qui se battait, qui avait des positions très très claires contre la Syrie, contre l'occupation, contre. D'ailleurs, c'est ce qui lui a coûté la vie. Et il a été assassiné, voilà, à cause de ce qu'il pensait, de ce qu'il défendait. Et donc il y avait un sentiment de révolte chez tout le monde. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin, c'était oui, plus fort que tout, qu'il fallait faire quelque chose. Et d'ailleurs, on m'avait demandé de participer un an plus tard à une cérémonie qui était à sa mémoire. Et tout à coup, il y a eu cette histoire de la bande-son qui a surgi. Et il y avait une évidence. À l'époque, j'avais envie de travailler avec Yalda Younes, qui est danseuse flamenca. Et l'idée est venue. Je me dis, c'est le moment de travailler là-dessus. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai appelé mes parents pour leur dire, vous vous rappelez, il y a eu cette histoire. Est-ce que c'est possible de retrouver cette cassette? Et ils l'ont retrouvée. Et alors là, il s'est passé quelque chose de curieux. C'est, je me suis retrouvé avec deux heures de son. Et je me suis mis à choisir les endroits, entre guillemets, qui étaient beaux, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai choisi les belles sonorités des bombes. Il y avait des bombes qui étaient graves, et, des bombes qui étaient moins graves. Il y avait des choses aiguës, il y avait... C'est assez choquant de dire ça. Et ce que disait Mazen tout à l'heure par rapport à la nostalgie, c'est vrai, on a ça. Il y a une espèce de fascination de la guerre qui est, comporte d'une façon, comme Mazen a dit, même avec beaucoup de culpabilité. Et en fait, je me suis dit, il faut aller au bout de ça. Donc d'accord, il y a une bande-son, il y a des bombardements, il y a des bombes que je trouve plus belles que d'autres. Vas-y, va chercher à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et donc j'ai reconstruit... J'ai fait une bande son avec des bombes, avec des pas qui sont bien écrits et bien calés sur les bombes, et ça devient comme une partition musicale en fait. Rien n'est laissé au hasard. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, ce que je suis en train de faire, c'est une réappropriation de la guerre. C'est une forme de réappropriation de la violence. C'est-à-dire que ce que je subissais étant petit et que je subissais comme une violence atroce. Comme si je me disais maintenant à moi de la prendre et de l'exorciser et de la réécrire en quelque sorte, de la transformer par le biais d'une œuvre artistique. C'est vrai que ça peut être un peu ambigu comme démarche par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de toute façon. Bon, moi je travaille avec mes moyens propres et je sens le besoin de repasser par cette forme d'exorcisme. Et par rapport à ces sons-là.
Mazen Kerbaj, il y a des bombes plus belles que d'autres. Est-ce que...
Sûrement, en fait, avant d'enregistrer donc cette fameuse
pièce... Il y a donc aussi une esthétique du son de la guerre.
Sûrement, je parlais d'un truc, je l'ai dit comme ça, mais à un moment, avant donc, la guerre israélienne, quand je cherchais des sons de... J'aurais dû savoir que tu avais ces deux heures, je les aurais achetées. Donc j'essayais de trouver des amis qui enregistraient ou leurs parents.
Il n'y avait pas d'avion à l'époque.
Pas d'avion, non, mais je voulais spécialement les bombes et les Kalachnikov. Donc le truc, c'est que j'ai trouvé enfin un type qui m'avait donné des cassettes, il enregistrait sur son balcon. Et le truc le plus hallucinant, c'était justement de retrouver la qualité du son des mitraillettes, surtout. C'était pas les bombes, en fait, qui me rendaient fou. Et j'en ai parlé un peu avant, c'est la répercussion c'est pas le son de la mitraillette seulement, mais l'écho du son de la mitraillette dans la ville. C'est un truc incroyable. Donc, on l'entend, puis on entend plus loin, puis on entend la réponse d'une autre barricade, et tout ça se répercute. Et pendant que tu entends l'écho, c'est un peu comme les poèmes de Patrick Dubost hier, genre mettre sa voix en plusieurs fois. Et il y a cette qualité, il y a une qualité sonore énorme. Bien sûr, c'est ignoble et tout. Je me rappelle aussi pendant cette guerre, donc quand j'avais mis cette pièce avec les bombes sur le net, il y a eu des gens, des intervieweurs, notamment la BBC anglaise, pour ne pas la nommer, qui m'avaient dit « Vous ne trouvez pas que c'est de mauvais goût de jouer de la musique pendant que des bombes tombent sur Beyrouth ?» Ce à quoi j'ai répondu que c'est de plus mauvais goût de lancer des bombes sur Beyrouth. Et puis discuter justement du salon, du fameux salon à Londres. Je lui dis, venez à Beyrouth, on en rediscutera. On discutera de goût, de bon goût et tout ça. Mais c'est sûr que la bombe a un son. Et c'était justement pour ça que je cherchais des sons. Je voulais vraiment voir la qualité de ces sons et pouvoir jouer avec. Maintenant, une dernière juste, qui n'a rien à voir, une dernière remarque, c'est à propos de la musique. Vous disiez qu'on ne devrait pas faire ça avec des bombes ou avec n'importe quoi parce que la musique, c'est l'évasion. Je devais faire cette remarque parce que je ne souscris pas du tout à cette définition de la musique qui ne doit être que de l'évasion comme n'importe quel art. À ce moment, on détruit Guernica, on dit c'est de la merde, ça montre des trucs d'horreur et il faudrait faire des coquelicots avec des fleurs. Et je pense que la musique reste toujours derrière tous ces autres arts parce qu'on est habitué à la voir, à chanter sous la douche, à l'écouter un peu partout. Et donc la musique est devenue comme un art mièvre, comme ça, où on ne peut pas prendre des prises de position et choquer les gens ou les bouger ou leur montrer que ce qui se passe, la musique peut être de reportage aussi, dans ce sens, quoi. Et je pense que c'est bien de pouvoir choquer avec la musique. Ça choque plus que la peinture, d'après mon expérience personnelle. Ça... Le bruit de la bombe, c'est sûrement pas de l'évasion, mais au moins, ça a le mérite de montrer plus la bombe une peinture de groupe ou quelque chose comme ça.
Thierry Fabre, peut-être une réaction sur cette idée qu'on vient de mettre en débat, sur cette esthétique de la guerre. Vous avez, avec l'équipe de La Pensée de Midi, il y a peu de temps, fait paraître un numéro spécial consacré à Beyrouth, dans lequel intervenaient de nombreux auteurs et artistes. Est-ce que tu as l'impression que se dessine une sorte d'esthétique de cet ensemble de témoignages ?
Effectivement, on avait fait avec Mohamed Kassimi un numéro sur Beyrouth 21e siècle, et puis un numéro avant qui s'appelait Regarder la guerre. Et donc c'est une question qu'on n'a pas cessé d'affronter. Et je trouve que la discussion qui vient de s'esquisser entre Mazen, Zad et Jean-Marc Stricker est tout à fait intéressante, parce que je crois que il y a à la fois une divergence et c'est pas le même registre. Je crois que ce que disait très justement Jean-Marc Stricker, informer, c'est pas à confondre avec de l'émotion. Et je trouve que c'est une belle éthique qui aujourd'hui a largement disparu, quand on voit une espèce d'étalage obscène qu'on voit dans les médias. Et de ce point de vue-là, une éthique un peu de retrait, de dire attention, il y a une distance, une mise à distance. Et je pense que Zad et Mazen disent autre chose. C'est que eux, ils ont besoin de cette émotion, de cette blessure, de cette intensité, de cette violence que la guerre a produite, pour, à partir de là, la métamorphoser. Et c'est au fond une réponse de vie, c'est-à-dire, face à la destruction, la seule réponse, c'est la création. Et que donc, l'empreinte de la destruction, qui a laissé une empreinte dans leur corps, dans l'empreinte dans leurs amis, on a vu les images de la guerre de Beyrouth, principalement de Beyrouth, mais du Liban de l'été 2006, des destructions sans commune mesure quand même. Et face à ça, effectivement, quand on est sur place et qu'on est musicien, à part rester les bras ballants, c'est de dire, comme l'a dit Zad, soudain, on prend cette petite musique, non pas de nuit mais de guerre, qui vient du passé, qui remonte, et à partir de là on dit je vais en faire quelque chose. Et je trouve que la pièce Non, par exemple, qui est un hommage à Samir Kassir, c'est une très belle façon de dire non à cette violence, à cette guerre, et pas dans un rapport mièvre. Je crois que c'est donné à entendre l'intensité de la violence et les pas, on le verra, on l'entendra tout à l'heure. C'est pareil, je pense, j'ai pas écouté la pièce de Mazen, je trouve que l'exemple de Guernica est tout à fait fort. Et c'est vrai que les Guernica sonores, on en connaît peu, et qu'il y a là peut-être une tentative intéressante. Et je crois pas que ce soit une esthétisation, c'est juste se retourner cette intensité de la violence pour lui donner une autre forme, une forme de vie plutôt qu'une forme de mort.
L'intensité de la violence retournée, transfigurée sous forme de musique, une musique qui parfois, elle aussi, peut probablement intégrer une forme de violence. Zad Moultaka, ce soir, outre cette pièce intitulée Non, en hommage à Samir Kassir, tu vas aussi nous donner à entendre une pièce qui s'intitule Polyphème. Alors Polyphème, je crois que c'est pas le cyclope vaincu par Ulysse, mais c'est un missile, c'est ça. Et c'est très probablement une pièce musicale dans laquelle la musique elle-même laisse entrer une certaine part de violence.
Oui, c'est un missile, je crois, mer-terre, si je m'abuse. Mais je pense que c'est quand même en relation avec le cyclope, parce que je crois que c'est quand on veut tirer, on ferme l'œil, donc on se retrouve avec un seul œil. Je crois que ça doit venir de là. En fait, l'idée donc de cette pièce, c'est c'est comment montrer la violence que l'individu peut contenir. Et là, c'est une pièce assez violente. Elle est donc c'est un percussionniste. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Où il y a des gongs, des tams, des métaux, et c'est quelque chose extrêmement violent. Et où je demande à l'instrumentiste d'être dans une forme de violence intérieure, d'aller chercher le plus loin en lui, dans ce qu'il peut générer comme son et comme force. Parce que je trouve, et quand on entend cette pièce, il y a des moments, c'est vraiment hallucinant. On se dit, mais comment un homme peut sortir autant de choses, et que ça devienne quelque chose de presque insoutenable. Et je me dis, si avec quelques métaux et deux baguettes, on est capable de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec des missiles et qu'est-ce qu'on peut faire, la puissance que l'homme peut engendrer et de devenir un monstre de destruction. Et c'est ce qui se joue avec cette pièce-là. Qu'est-ce que je peux dire en plus? C'est en fait, pour aller vite par rapport à cette pièce, donc en fait, il se transforme en lanceur de missiles. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se retourne contre lui par le biais de la bande-son, et c'est le public qui lui amène les bombes par le biais d'une bande-son qui est trafiquée avec des sons presque amusants, qui pourraient presque être des sons de téléphone, et qui reviennent vers lui, et comme si toute cette violence se refermait contre lui, et que les bombes deviennent à l'intérieur de lui-même et qu'il implose à la fin. Voilà, il y a une espèce de jeu comme ça de...
Cette pièce va être tout à l'heure interprétée par Alexandre Régis, percussionniste. Vous avez répété il y a quelques minutes, quelques heures, cette pièce. Quelle indication lui as-tu donné, justement, pour pouvoir exprimer cette violence tape fort? Comment on fait?
En fait, il y a la pièce, il y a toujours un son qui est au début des déflagrations, parce que ça se passe, on peut dire que ce sont une succession de déflagrations qui sont de plus en plus fortes. Et ça commence toujours par un tout petit son qui est absolument d'un cynisme absolu sur une toute petite casserole, en fait, qu'il a trouvée. Il s'approche de la casserole, il fait clic. Et après, il y a la déflagration. Et en fait, il y a cette répétition de ce petit son à chaque fois qui fait qu'à un moment donné, public, à chaque fois qu'on va entendre ce clic, on va dire « Oh là là, ça va arriver ». Voilà. Et ça vient en fait de cette... je m'éloigne de la question, mais je vais y arriver. Je me rappelle, j'ai le souvenir de quand on était caché pendant les bombardements, où on entendait très très loin, il y avait un rapport au silence qui était absolument extraordinaire. Et je me rappelle, on entendait de loin quelque chose, une espèce de bruit sourd, très très lointain. Ça faisait boum, comme ça. Et en fait, j'étais l'éclaireur de la famille, c'est-à-dire quand j'entendais ce son-là, parce que c'était très très fin et très lointain, je leur disais attention. Et 3 secondes après, on recevait la bombe sur la tête. Il y avait cette espèce d'attente comme ça à chaque fois qu'il y a une attente sonore, qui est ce boum. Et il y a quelque chose qui arrive après. Donc en fait, ce que je lui disais, c'est qu'il faut que tu sois en même temps dans ce cynisme de « je vais déclencher quelque chose ». Et ensuite, après ce cynisme-là, tu remplis toute l'énergie, toute la force que tu peux remplir en toi, et de nous balancer cette déflagration le plus fortement possible. Tout en restant musical quand même, parce que c'est...
Autant que faire se peut. La musique et la voix, on va tout à l'heure rencontrer et écouter la voix de Etel Adnan, poétesse. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse écouter un morceau de musique que tu as composé, Zad. Et peut-être que tu pourras nous présenter. Et je crois que précisément ce morceau est composé sur un poème d'Etel Adnan.
Depuis que j'ai rencontré Etel il y a quelques années, et depuis il y a eu beaucoup de plusieurs pièces que j'ai écrites sur des textes, parce que j'ai senti quelque chose de très très fort avec son écriture, qui est justement une écriture très présente aujourd'hui, très très forte. Voilà, donc j'ai eu vraiment envie de travailler sur ces textes. Et là, ce qu'on va entendre, en fait, c'est une pièce qui a été créée au mois de décembre au Concertgebouw d'Amsterdam, avec le chœur de la Nederland, le chœur de la radio. Et c'est sur son texte qui est l'Apocalypse arabe. Donc on va écouter la fin de l'œuvre avec un grand chœur et 24 musiciens.
Ouh.
Thank you.
composition de Zad Moultaka, interprétée par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, sur un poème d'Ethel Adnan. Peut-être est-elle quelques mots sur les paroles que l'on entend au travers de cette musique.
Vous voulez que je parle de la musique ?
De votre poésie, de votre texte. Mais aussi de la musique.
C'est un texte que j'ai écrit, que j'ai commencé en 1975. Et je peux dire que c'est la guerre qui a écrit ce texte, parce que en parlant de guerre, on parle, il y a un changement qu'on peut pas totalement exprimer avec des mots, mais le rythme de vie. Et c'est pas le rythme, on se réveille plus tard ou plus tôt, non, c'est un autre rythme. C'est un rythme de pensée qui change. Et donc, ce poème est comme disait Mazen, parfois, où la pièce dont Zad vient de parler, une pièce qui est dure, et c'est un poème qui est dur. Parce que cette dureté a écrit ce poème. On n'est pas, on est aussi des instruments de ce qui nous arrive. Donc, c'est un poème sur le soleil, apparemment, parce que il commence comme un poème sur le soleil, parce que le soleil, comme le son, tout est double. Le son fait de la musique merveilleuse et fait des bruits insupportables. Et le soleil tue et le soleil donne la vie. Il n'y a pas de vie sur Terre sans soleil. Et le soleil crée des déserts et carrément tue des gens perdus dans ces déserts. C'est un signe double. Donc c'est un poème, je l'ai écrit pendant le siège de Tel Zatar. Donc moi j'étais à Beyrouth déjà adulte quand Zad et Mazen venaient de naître. J'ai passé surtout les deux premières années de la guerre à Beyrouth. Et j'ai écrit ce poème pendant cette période. Mais tout en essayant de voir sans arrêt, autant que possible, les conséquences de ce qui arrivait. Parce que personne ne peut regarder un objet ou un événement avec une objectivité totale, parce que nous sommes des êtres humains. Je ne dis pas une honnêteté, on peut être très honnête tout en n'étant pas, tout en étant impliqué. Mais pour moi, cette guerre était le signe d'une catastrophe dans le monde arabe et le signe de catastrophe à venir. Il y a des tournants historiques visibles. Chaque moment est un tournant, mais il y a des tournants plus évidents. Et je savais que cette guerre ne devait pas avoir lieu et que par une série de conséquences, c'était la catastrophe d'un monde. Et nous avons vu d'ailleurs que depuis, il y a une guerre contre dans le monde musulman et en partie contre le monde musulman. Et cette guerre est un des jalons de cette confrontation. Peut-être parce qu'il y a du pétrole, peut-être parce qu'un État comme Israël est un État expansionniste. Il y a une cupidité dans le monde. Plus il y a de l'argent, plus il en en veut. Il y a une cupidité qui explique en partie, pas entièrement, les confrontations. Je me vous rappelais quand à un moment les Français disaient, pas tous les Français, vous avez du pétrole, nous on a des idées, vous comprenez. Donc c'est comme ça. Et en fait, à l'époque, je disais, nous on a du pétrole, vous avez de l'eau. Moi j'aurais préféré avoir Evian et Perrier qui sont renouvelables qu'avoir du pétrole. Mais enfin. Donc, j'ai écrit ce poème dans un état d'inquiétude totale. Et je voulais lui donner, pas lui donner, mais ma pensée m'était... On vit sur plusieurs niveaux. Et je répondais à l'anxiété quotidienne, au chagrin quotidien. Parce que quand vous parlez des sons, et quand j'entendais une bombe, ça me rappelait quand j'étais enfant, parce que j'avais un balcon à un 10e étage, et je voyais à peu près, c'était surtout pendant Tel Zartar, donc chaque bombe écrasait des gens, comme lorsque j'étais enfant, on jetait une pastèque une fois sur un groupe de fourmis. Et des enfants sont sensibles, j'ai jamais oublié cette image. Plouf! Et toutes ces petites fourmis qui étaient mortes, et bien c'était comme ça, à chaque plouf, c'était des gens qui étaient écrasés, qui mouraient. Donc, ce poème a un peu un rythme, et il a le rythme de ce qui se passait, un rythme saccadé. Oui, vous parlez des sons, des bruits. Parlant de cette nostalgie, les villes ont des sons. Vous avez constamment le bruit des voitures, le bruit des autobus, des gens. Et nous sommes dans une culture très visuelle, parce que le livre, nous sommes des cultures du livre, et le livre, c'est des yeux, on lit. Mais il y a eu des cultures orales et des cultures du son, où le son était plus important. Par exemple, on s'inquiète de la poubelle parce qu'elle est visible, mais il y a une pollution sonore. Il y a des gens, surtout dans des quartiers pauvres, qui vivent dans des bruits constants. Et moi, j'étais une fois, je passais de New York au nord de New York, et les métros passent devant les fenêtres des quartiers noirs de Harlem, devant les fenêtres. Les gens sont comme ça, avec des trains qui passent sans arrêt. C'est une torture. Il y a une torture par le son qui est peut-être encore plus grave, parce qu'on ne peut jamais se boucher les oreilles entièrement. Ça vous pénètre.
Donc, sans être forcément le son de la guerre, le son peut parfois être une guerre. Zad Moultaka, tu voulais réagir, je crois, à cette réflexion de
Tete Lagnane. Il n'y a pas que le son de la guerre. Nous sommes bombardés de sons, et ça, c'est des sons particuliers.
Je voulais juste réagir par rapport à ce que disait elle, par rapport à son texte. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, tu dis que tu témoignes de la vie de tous les jours, des horreurs, avec des mots très violents et en même temps avec des mots très beaux, parce qu'il y a des passages d'une beauté absolue sur l'amour, sur le désir, enfin, tout ça s'est mélangé comme ça se mélange pendant des temps comme cela. Mais ce que j'ai trouvé très très beau, c'est que j'avais l'impression qu'à un moment donné, tu disais que tu sentais qu'il va y avoir une grande guerre, mais en fait, dans ce texte, tu as été même au-delà de la guerre. C'est comme si tu avais traversé très très vite un temps, ce temps-là, pour arriver à la fin et bien après, et le noir devient encore plus noir, et le soleil n'est plus, et les dieux ne sont plus, et ni dieu ni ange ni personne, et tu as fait un saut dans le temps qui je trouve vraiment extraordinaire, et en disant que au bout, peut-être après le noir, là on trouve la paix.
Je l'ai appelé l'apocalypse arabe. C'est une apocalypse, c'est-à-dire que l'excès détruit, d'autre part l'excès peut aussi ou en même temps détruire et ouvrir. C'est une vision. L'excès est un danger. C'est comme ceux qui ont pris des drogues hallucinatoires. Bon, ça les a détruits, mais ils ont aussi vu des choses que nous ne voyons pas. Et vivre 15 ans de guerre ou 2 ans de guerre, ou vous vivez sur un autre plan. Et certains deviennent visionnaires. Vous voyez aussi des choses que vous ne voyez pas avant.
Et Tel Adnan, vous êtes aussi l'auteur d'un texte qui s'intitule « Cite Marie-Rose », qui est paru en 1978, et dans lequel vous décriviez de l'intérieur la guerre civile libanaise. Mais Est-ce que vous pensez que cette voix que vous portez, que votre parole et éventuellement la musique qui peut l'accompagner avec les nombreux compositeurs avec lesquels vous avez travaillé, Gavin Bryars ou Zach Multaka, est-ce que vous pensez que votre voix est plus forte que les obus?
J'ai un rapport particulier à la musique parce que je ne connais pas le solfège, je ne connais pas une chanson d'un bout à l'autre, j'écris de la poésie, je ne connais pas un seul poème, et avec ça, j'ai l'impression qu'il y a un voile entre moi et la musique. Dans le sens que la musique est toujours là, j'aime la musique, peut-être c'est l'art que j'aime le plus et dont je suis le moins capable. Mais j'ai cette obsession parce que c'est l'art qui peut-être, avec certains moments de peinture, vous enlève le plus immédiatement ailleurs. Il y a un côté immédiat à la musique qui est extatique, qui est visionnaire, qui est une espèce de révélation presque à portée. Et là, j'aime particulièrement la musique et j'aime travailler avec des musiciens. Il me semble que la musique est le premier et le dernier mot de beaucoup de choses, de la pensée. D'ailleurs, Platon disait qu'il fallait enseigner aux enfants les mathématiques et la musique. Il n'a même pas dit l'écriture ou quoi que ce soit d'autre. C'est en même temps le plus primordial, le rythme, et le plus éthéré. C'est extraordinaire. Donc j'ai un plaisir, presque un besoin physique de musique et de travailler ou de connaître, d'être proche des musiciens. Ils ont une clé du bonheur.
Du son de la guerre à la musique comme une nécessité, comme une urgence pour résister à la guerre. Jean-Marc Stricker, tu es journaliste, grand reporter, on l'a dit, mais on a peut-être négligé de préciser que tu étais aussi musicien. Ceci dit, à la différence de Mazen, qui lui mène de front sa pratique musicale et sa pratique de dessinateur, en revanche, pour toi, ce sont deux choses nettes et bien distincte que ton travail de journaliste et ta pratique musicale.
Ah oui, ce sont deux univers plus que différents, deux univers totalement étrangers. Et je fais tout toujours en sorte pour qu'ils restent absolument étrangers. Je dois dire que moi, je ne suis pas du tout compositeur. J'ai une formation de musicien, parce que j'ai fait notamment, entre autres choses, 20 ans de musique quand j'étais jeune. Mais donc, c'est peut-être cette formation qui m'a marqué. Mais ce que je veux, justement, à ce propos là de frontière entre art et guerre, entre son, enfin art sous quelque forme que ce soit, et guerre, ce qui me choque toujours, c'est que la lutte contre la guerre ne peut pas passer par une forme artistique. À mon sens, elle ne peut passer que par la lutte politique, la rébellion, la contestation, l'écriture éventuellement, mais l'écriture au sens de l'information, une écriture qui informe sur les événements. Alors que l'art, notamment la musique, qui est faite de sons, puisqu'on parle de sons, pour moi c'est l'évasion totale. C'est-à-dire que où je lutte contre la guerre, je m'engage dans un combat, dans un combat contestataire. Ça c'est une chose en tant que citoyen. Où je fuis la réalité dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire la réalité humaine tout simplement. Et à ce moment-là, bah, je préfère écouter les 555 sonates de Scarlatti par Scott Ross ou réécouter. Pour la énième fois Jean-Sébastien Bach ou Schubert, je préfère ça. Pour moi, c'est ça le rôle de la musique dans ma vie, c'est l'évasion totale de la réalité humaine, cette réalité qui fait que plus je vieillis, plus je préfère les chats aux humains.
Thierry Fabre, une réaction, et il n'appartient pas aux artistes de pouvoir changer la guerre, de pouvoir l'éradiquer, c'est le rôle des politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais pas vraiment. Pas vraiment, parce que dire la lutte contre la guerre ne peut pas passer par une forme artistique, Alors comment est-ce qu'on lutte contre l'esprit de la guerre ? Et il me semble que justement la création, c'est peut-être une belle façon de s'y affronter, de la regarder bien en face, de la transcender, de la métamorphoser. Et il me semble qu'il y a là quelque chose, on peut séparer les deux, comme vous le faites, c'est tout à fait légitime, la création, que ce soit musicale ou picturale, on parlait de Guernica tout à l'heure, elle n'est pas forcément une échappée. Elle n'est pas une conscience. Et à partir du moment où, comment dire, et nombre de textes, de pensées philosophiques, d'écriture littéraire, on vient de rééditer Orage d'acier, les ensembles des textes d'Ernst Junger et Sur les falaises de marbre. Voilà quelqu'un qui a vécu la violence démesurée de la guerre de 14 et qui a ensuite pris un des premiers conscience de la violence du nazisme et qui l'a écrit. Et ce qu'en a fait Julien Gracq a montré combien cette pensée-là pouvait être à l'œuvre et cette exigence artistique était une façon de s'affronter à l'esprit de la guerre. Donc je ne crois pas à cette coupure. On peut la distinguer, il est légitime de vouloir le distinguer, mais de dire qu'on peut l'opposer, ça me paraît moins juste.
Non, d'ailleurs je faisais allusion à l'écriture, hein, pas simplement à l'écriture journalistique, mais effectivement il y a des écrits qui aident les hommes et femmes lambda, qui les aident à prendre conscience de ce que peut être la guerre. Mais la cause fondamentale des guerres est quand même d'ordre économique. Et c'est là qu'il faut se battre. Hein.
Je ne crois pas non plus. Je crois qu'il y a des guerres économiques. Il y a des guerres, bien entendu, les interventions américaines, elles sont liées quand même aux moyens pétroliers et à ce que ça représente. Mais il y a quand même des passions collectives, des imaginaires de guerre qui ne sont pas économiques et qui relèvent justement du goût de la mort, d'un désir de la destruction et d'une propension la quête de la purification. Ethnique, elle n'est pas économique. Je veux dire, elle est parce qu'on a une exigence, une espèce de passion nationaliste, de vouloir construire un État homogène et pur, et ça n'a pas grand-chose à voir. La guerre civile au Liban, elle est de multiples facteurs de tensions internationales, de liens, oui, etc. Mais il y a aussi, on en parlait avec Etel Adnan tout à l'heure, il y a aussi les fragmentations propres à la société libanaise et qu'on voit ressurgir aujourd'hui avec différentes formes d'appartenance politique, religieuse, qui font que le vivre ensemble, il n'est pas tout à fait construit. De ce point de vue-là, il y a une passion de la guerre. C'est ça qui est le plus gênant, c'est que les hommes ont le goût de la mort et le goût de la guerre, et que de ce point de vue, la dimension artistique, c'est ce peut-être par quoi on peut non pas y répondre politiquement, mais y répondre humainement, y répondre en pensée. Et de ce point de vue-là, les paroles qui légitiment la guerre sont extrêmement puissantes. Il y a une responsabilité de la pensée.
Et vous oubliez les artistes qui sont complices d'ailleurs des sentiments nationalistes,
absolument,
ethniques, etc.
Le chantre de la guerre, Karadzic, par exemple, était un poète salopard qui a fait des odes à la destruction des bosniaques musulmans. Donc il y a bien sûr, et ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire, quand je disais qu'il y a un goût de la mort et de la destruction, c'est de cet ordre.
Non, ce qui me surprend un petit peu dans ce que vous dites, c'est que finalement vous enlevez de la musique toute sa substance première, profonde, qui la rapproche de la philosophie. C'est-à-dire que en fait, une œuvre musicale est une œuvre avant tout, avant d'être une œuvre de loisir qu'on écoute parce qu'elle est belle, elle contient une charge très importante de pensée et de rapport philosophique au monde. Quand Beethoven écrit ses symphonies en utilisant des accords qui n'étaient pas utilisés à l'époque, qui sont les septièmes, et que tout à coup il fait imploser tout un système, c'est aussi une manière de dire je suis contre telle chose. Il se bat à travers son propre outil d'écriture comme un écrivain, comme un penseur, exactement. Quand on voit comment la musique dodécaphonique, comment elle a réagi par rapport à la guerre, c'est-à-dire faire exploser 500 ans de système, si ça ce n'est pas une attitude, si ça ne dit pas quelque chose qui est au-delà juste du loisir d'entendre une musique.
Non, mais je ne parle pas de loisir, hein. Je parle de méditation, je parle de réflexion profonde. Quand je dis évasion, ce n'est pas du tout de la musiquette pour se distraire. Ce n'est pas à ça que je pense du tout. Hein.
Le dodécaphonisme...
C'est un voyage ailleurs.
Le dodécaphonisme est arrivé pour compléter ce que la guerre n'a pas pu détruire, pour détruire encore plus ce que la guerre n'a pas pu aller au bout de ce qu'elle faisait. Donc, c'est, au contraire, c'est, pour moi, ce n'est pas du tout une évasion. C'est au contraire, c'est s'impliquer encore plus et ça devient un système de pensée qui lutte aussi contre ces violences-là.
Mazen Karmage.
J'aimerais deux petits trucs en fait sur le sujet. La première chose étant l'art et ou l'artiste contre la guerre. Donc ayant expérimenté ça dans ma vie, je pense qu'il faut vraiment pas être naïf en pensant qu'on peut arrêter une guerre quoi, en faisant des dessins ou des musiques. Mais je pense, plus j'y pense, plus je pense que, en fin de compte, c'est l'artiste qui gagne cette guerre contre la guerre. Donc, bon, je reviens à Guernica parce que c'est l'exemple le plus évident. Je pense que aujourd'hui, que Franco est mort, Picasso est mort, Hitler, tout le monde, tous les gens qui ont participé à ce massacre sont morts. Même les gens qui l'ont vécu, quoi, les gens qui ont perdu des proches. Commence à disparaître, quoi. Dans 30 ans, il n'y aurait plus de survivants qui ont vécu ça, presque, ou dans 40 ans. Et c'est là que Guernica aura gagné sa guerre contre Franco, c'est évident pour moi. Maintenant, pour revenir à comment un artiste, est-ce que par l'écrit, on peut réagir à la guerre, alors que par la musique ou par n'importe quoi d'autre, on pourrait moins, ça, je pense que c'est un faux problème, quoi, par quel truc. Maintenant, pour la position de l'artiste, moi, j'aurais adoré, pendant les bombardements de Beyrouth, écouter Scarlatti aussi, mais figurez-vous que, bon, avec le bruit des bombes, c'est impossible à écouter. Puis l'autre truc, c'est surtout, c'est pas si j'ai envie d'écouter Scarlatti ou envie... Je veux dire, quand j'écoute des bombes, c'est pas je me dis, bon, je vais écouter d'autres bombes et je mets un CD avec des bombes. Non, j'aimerais écouter Scarlatti, effectivement. Mais le truc, c'est primordial pour l'artiste. Vous dites, il faut s'engager politiquement. Quand il y a des bombes qui tombent sur votre ville, allez vous engager politiquement quelque part, surtout au Liban. C'est vraiment impossible. Donc je pense que le seul truc, l'art sauve vraiment quoi de la guerre, mais il sauve l'artiste. Hélas, il sauve que l'artiste de la guerre. Il sauve de la démence quoi. C'est le seul moyen d'oublier qu'il y a la guerre et de réagir par ses propres moyens, de sentir qu'on est vivant, de sentir qu'on est encore capable de créer quoi. C'est vital quoi.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je vais proposer à Thierry Fimbre, en forme de conclusion, peut-être de revenir un peu sur cette question. Je crois avec
un
texte ou un extrait.
Un texte, oui, de quelqu'un qui s'est beaucoup affronté à la guerre en Algérie, qui est Albert Camus, parce que dans la guerre, il y a le sens de la démesure, de l'ubris, de la violence qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et la pensée de midi telle que Camus essaie de l'exprimer, c'est une pensée des limites. Et je voudrais juste, je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de s'affronter à ce qu'a pu être la violence du terrorisme et d'essayer de trouver un chemin et une pensée justement contre l'esprit de guerre. Et je voudrais juste donner cet extrait qui est une lettre au poète Jean Sénac du 10 février 1957, où Camus lui dit ceci. Le héros des justes refuse de lancer sa bombe lorsqu'il voit qu'en plus du grand-duc qu'il a accepté d'abattre, il risque de tuer deux enfants. Ce refus, cette certitude passionnée qu'il y a dans le meurtre et dans l'injustice une limite à ne pas dépasser, je les ai donnés en exemple dans ma pièce et dans L'homme révolté, parce qu'ils sont les seuls, selon moi, à garder à la révolte sa vérité et sa grandeur. Ma position n'a pas varié sur ce point. Et si je peux comprendre et admirer le combattant d'une libération, je n'ai que dégoût devant le tueur de femmes et d'enfants. La cause du peuple arabe en Algérie n'a jamais été mieux desservie que par le terrorisme civil pratiqué désormais systématiquement par les mouvements arabes. Et ce terrorisme retarde peut-être irréparablement la solution de justice qui finira par intervenir.
Bien, ces magnifiques paroles en forme de conclusion à cette discussion autour du son de la guerre. Merci à Thierry Fimbre, Mazen Karmage, à Manuel Girardin, à Jean-Marc Stricker, à Etel Adnan et à Zad Moultaka. Thank you.
garçon de plateau.
C'est un
jour.